Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et en cette fin de matinée, nous allons vous proposer plusieurs interviews issues de nos archives. Il sera question de gourmandise et de littérature avec Régine Tessot qui signe aux éditions Erol 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté. Nous parlerons aussi du café avec l'écrivain et romancier Pascal Marmet qui signe aux éditions du Rocher le roman du café. Nous reviendrons donc sur cette boisson. Alors le café, drogue, business, poison, médicament, carburant ou un ami qui nous veut du bien? Début de réponse aujourd'hui en tout cas dans cette émission. Comment le drapeau français est-il né? C'est ce que nous expliquera l'historien Raphaël Delpart, qui reviendra sur la construction de notre emblème tricolore, en passant aussi par Clovis, Charlemagne, Louis VI et la Révolution française. Et puis nous aurons le plaisir de nous intéresser aux origines de l'œuvre la plus admirée et la plus controversée, grâce à une interview de Sophie Herfort. En effet, qui se cache derrière le portrait de Mona Lisa? Début de réponse et éclaircissement aujourd'hui. Nous ouvrons Wagon Livre avec Philippe Ménager, passionné par tous les patrimoines de Bourgogne et de France. Je l'avais interviewé il y a quelques années à Saint-Honoré-les-Bains pour un ouvrage qu'il venait de faire paraître aux éditions de l'Escargot Savant, ouvrage intitulé « Sites et monuments remarquables de la Nièvre ». Et c'est l'occasion avec lui d'un petit parcours dans un département méconnu et qui pourtant mérite d'être découvert et d'être mis en valeur. Philippe Ménager.
La Nièvre, ce département si méconnu, ce département tant raillé, soi-disant il n'y a rien, vous allez vous perdre dans la Nièvre, m'a-t-on dit. Que nenni, il y a plein de choses. Et la variété de monuments est à l'égal de la variété des paysages de ce département. Rien de plus différent entre Cosne-sur-Loire et Château-Chinon qui, dans l'alphabet, sont l'une à côté de l'autre. Et pourtant, d'un côté, vous êtes dans le Val de Loire et de l'autre, vous êtes dans le Morvan granitique. Rien à voir entre le Bec d'Allier, si tout à fait remarquable pour la nature, et puis la région de Clamecy. Le Val de Lyonne et le Val de Loire, ce ne sont pas les mêmes choses.
Alors, un petit mot de Saint-Honoré-les-Bains.
Ah, Saint-Honoré-les-Bains, ville thermale par excellence.
Découverte par les Romains dans l'Antiquité.
Oui, et redécouverte fortuitement par les fouilles, tout moins fouilles, pas archéologiques, par les fouilles qui ont été faites au début du 19e siècle pour réaménager le site des sources. Et à ce moment-là, on a découvert plein de monnaies, un certain nombre d'objets votifs qui sont allés enrichir des collections départementales ou particulière, et puis voilà, ce développement qui va se faire au cours du 19e siècle jusqu'à donner un ensemble de très belles factures néoclassiques et art nouveau au tournant des 19e et 20e siècles, avec un pavillon d'accueil tout à fait remarquable pour son allure néoclassique en architecture et pour ses remarquables décors art nouveau en mosaïque. C'est vraiment un plaisir de l'œil.
Les villes de la Nièvre sont bien évidemment nombreuses, avec une richesse patrimoniale que tu mets en valeur donc dans cet ouvrage dont je rappelle le titre, hein, « Sites et monuments remarquables de la Nièvre », c'est aux éditions de l'Escargot Savant. Un petit mot sur Clamecy, par exemple, la ville, j'allais dire presque le cœur de l'industrie du flottage du bois.
Ah oui, oui, Clamecy, territorialement, administrativement, dans la Nièvre, mais par Lyon, tournée forcément vers le département homonyme. Ville tout à fait charmante, tout à fait singulière, où à la fois on a évidemment tous ces aménagements liés au flottage du bois. Hein, les Pertuis, le canal du Nivernais qui contrecarrera le flottage et le fera disparaître, mais également patrimoine religieux tout à fait remarquable avec une collégiale qui est de toute splendeur.
L'église de Bethléem.
Et j'allais y venir, l'église de Bethléem qui est quelque chose d'une singularité sans commune mesure. Qu'est-ce que Bethléem d'ailleurs vient faire au fin fond de la Nièvre ? Bien, c'est un évêque in partibus, encore du latin décidément. Donc c'est-à-dire que l'évêque de Bethléem, le jour où les Mahométans ont repris la Terre Sainte, eh bien, s'est trouvé sans évêché. Il avait été prévu qu'il ait un évêché dans la Nièvre et à Clamecy. L'église originelle aujourd'hui est transformée en restaurant. De la table du Seigneur, on est passé à la table des seigneurs de la fourchette et du couteau.
Un autre hôtel.
Oui, et... C'est un autre hôtel, pas belle homonymie. Et la nouvelle église de Bethléem est un ouvrage en béton armé qui est assez singulier parce que au moment où il est construit, cet édifice, des ouvrages en béton armé, on n'en a trouvé que dans la région parisienne. Et c'est l'une des premières fois qu'on trouve ce type d'église en béton armé dans la province. Et c'est d'un grand intérêt patrimonial, évidemment.
Alors Philippe, un petit coup de cœur dans la Nièvre, un petit joyau patrimonial, historique.
L'église de Verneuil. Vraiment, c'est un lieu que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Très belle église romane, qui a surtout un grand intérêt, c'est l'ensemble de ses peintures murales. Vraiment, on a des cycles de périodes différentes, mais qui sont d'une très belle facture. Et puis, que l'on trouve partout, pas seulement sur les murs de la nef, on les trouve sur les intrados des voûtes, on les trouve dans les cul-de-four des chapelles et de l'abside. Vraiment, on les trouve partout et s'en fait une collection remarquable de peintures murales. C'est charmant.
À l'instant, c'était Philippe Ménager, historien, enseignant et guide conférencier accrédité par le ministère de la Culture. Je l'avais interrogé alors au salon Bain de Livres à Saint-Aux. C'était en 2013, au moment où Philippe Ménager venait présenter Sites et monuments remarquables de la Nièvre, toujours disponibles en librairie aux éditions de l'Escargot Savant. Philippe Ménager sera d'ailleurs présent à la 22e fête du livre d'Autun qui se tiendra les 6 et 7 avril prochain, samedi 6, dimanche 7 avril, et vous pouvez découvrir les auteurs et le programme de ce grand salon bourguignon qui se tient donc en Saône-et-Loire à Autun sur le site de l'association de bénévoles organisatrice de ce salon en pianotant via internet www.lireenpaysautunois.fr. C'est Wagon Livre sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans une poignée de minutes après la pause musicale que nous vous proposons.
La tête en croix dans mes chaussons, ouais, j'aspirais fort à la longeade. Je ne doutais pas que sous les drodons, oh non, ce tram est une embuscade. Je me voyais parti pour la nuit, tant ma fatigue était énorme. J'en étais tombé sur le lit comme un tampon de chloroforme. Au moment pile où je m'endors, j'en profite pour me réveiller. Le regard monté sur ressort, le restaurant du plafonnier. J'ai dû m'en taper un, deux, trois, c'est à chaque fois la même histoire. Elle frappe la nuit et dans le dos, la félonie du café noir. Choisis toujours bien son or, l'autre a pas fait de caféine. Petit jus de percolateur, je te hais toi et ta copine. On croit ça soupir en sursaut, on se réveille comme un cran d'arrêt. Petit café, mon gros salon, café le trou que je te hais. Le restaurant du plafonnier. chaque fois la même histoire. Elle frappe la nuit et dans le dos la félonie du café noir. Malheur à celui qui la nuit a des retours de robusta, du insomnie pure Colombie, la fièvre de l'arabica. Ça finit debout sur le lit, possédé par le cha-cha-cha. Malheur à celui qui la nuit est poursuivi par un kawa. Malheur à celui qui la nuit est poursuivi par un kawa.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur votre radio locale, sur Radion. Comme je vous l'avais indiqué en début d'émission, nous allons parler du café à travers un entretien avec Pascal Marmet, qui est l'auteur du roman du café, disponible aux éditions du Rocher. C'est un livre qui est à la fois un roman et un livre éducatif. C'est une sorte de dictionnaire amoureux du café. Le café qui est d'ailleurs la deuxième boisson la plus consommée en Europe. Et sachez que dans notre pays, il se boit à la seconde 12 000 tasses de café. Et puis le café, c'est 400 grands crus. Dans le monde, le Robusta, l'Arabica. Bref, si vous voulez tout savoir sur le café, prêtez attention à l'interview qui suit. C'est Pascal Marmet que j'avais interviewé à Autun en avril 2014.
Alors ce livre, c'est intéressant de le signaler, c'est un roman double. C'est-à-dire que c'est un vrai roman pendant 210 pages, où là c'est l'histoire de Julien donc, qui va être licencié de sa petite brûlerie où il travaille. Et comme c'est un fondu de café, que c'est un passionné, c'est un histograin, c'est un caféologue, c'est des mots que j'ai inventés ça, il va partir sur les traces du café. Et en même temps, donc pour rejoindre votre question, à la fin du livre, il y a tout un précis sur le café où là on est dans l'historique pur. Il y a plein de rubriques sur les femmes et le café et la santé. Et vous verrez à la fin du livre, poison ou médicament, ça dépend des époques et ça dépend des maladies. En fait, il peut être un poison, il peut être dangereux pour la santé, pour certaines maladies, comme par exemple les gens qui ont des problèmes à l'estomac ou qui ont des problèmes cardiaques, il est déconseillé de boire du café. En revanche, pour certaines autres maladies, il peut être un médicament. Pour certains cancers peu abrasifs du sang, par exemple, pour les maladies liées à la motricité, pour la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, il améliore la motricité. Vous voyez, donc ça peut être un peu les deux. Et d'ailleurs, le premier qui a décrit ça, c'est le philosophe médecin perse qui s'appelait Avicenne au XIe siècle. Il a signé deux livres sur les... Parce que le café était au départ un médicament, il était vendu chez les apothicaires, les anciens pharmaciens. Il est devenu après une boisson, mais au départ c'était un médicament.
Alors Pascal Marmet, comment le café est-il introduit en France et à quel moment découvre-t-on le café, j'imagine dans les milieux en tout cas aristocratiques?
Oui, alors la première fois que le café est arrivé en France, parce que le café est né en Éthiopie, en Abyssinie, au Yémen, il y a tout un tas de légendes, mais on peut parler du café introduit en France à partir du XVIIe siècle, notamment il y a une date très importante, c'est 1669. Pour renouveler son alliance avec l'Autriche, le sultan de Turquie envoie un ambassadeur au roi de France Louis XIV. Il envoie un ambassadeur qui s'appelle Aga Soliman Raka. Et cet ambassadeur est présenté donc au roi Louis XIV, qui organise en fait la venue de cet ambassadeur comme une grande fête. Donc il se pare de diamants, il le reçoit au bout d'une longue galerie dans un trône prestigieux, il a de l'hermine sur lui, il y a des vases précieux, et le grand ambassadeur lui arrive simplement vêtu d'une robe de marchand, et il commet une grave erreur, il ne se prosterne pas devant Louis XIV, simplement il s'incline et il croise les bras, comme ça. Louis XIV est très vexé donc, de cette entrevue, hein, et il n'apprécia pas ça.
Le roi soleil en prend ombrage.
Le roi soleil en prend ombrage, et j'ai mis pour cause de sourcils hautains, le café n'entrera pas à la cour du roi de France sous Louis XIV, il entrera plus tard sous Louis XV, qui lui torréfia lui-même son propre café. L'ambassadeur a été très vexé aussi de cette entrevue, parce qu'il a porté une lettre du sultan de Turquie, de son frère de l'Orient à Louis XIV. Louis XIV ne l'a même pas lu, il l'a fait lire par un lecteur, et au bout d'un certain temps, il a même coupé le lecteur en disant « je la lirai plus tard ». Donc l'ambassadeur Aga Soliman Raka fut très vexé de cet entretien, Louis XIV aussi, et le courant n'est pas passé entre les deux. Et parce que aussi Louis XIV préférait le chocolat des Amériques, il faut vous dire ça aussi. Mais en revanche, cet ambassadeur, qui était très riche donc, acheta un hôtel particulier aux abords de Paris, et il recevait toute la cour de France qui venait boire un excellent café.
Alors, à partir de quel moment le café devient une boisson populaire ?
À partir de quel moment ? Eh ben, on peut parler déjà, en 1672, nous avions le Candio. Hein. Le Candio, c'était un bossu qui frappait à toutes les portes à la foire de Saint-Germain et qui criait « café chaud, café véritable ». Son café était abominable, bouillant, il mélangeait à la châtaigne. Mais bon, déjà, on peut parler que les gens étaient intéressés par cette boisson. Mais vraiment, véritablement, je crois que c'est lié au Procope en 1686, qui est le premier café de Paris. Et à partir de là, les plus grands philosophes, il y a eu 5 générations de philosophes, d'écrivains, mais même plus, puisque ça a continué jusqu'aujourd'hui. Hein. Le Procope, ça a été vraiment le premier café à Paris. Et Voltaire, il y avait la table de Voltaire. Avant, il y avait De Fontenelle, il y avait Racine. Rimbaud, plus tard, allait user ses talons sur le bar du Procope, etc. On y faisait un excellent café.
Quel est le plus grand pays producteur de café en ce début de 21e siècle ?
Alors, c'est toujours le Brésil qui est toujours numéro 1, mais qui est talonné depuis peu par un pays qui n'était pas du tout producteur de café avant. Le Vietnam. Le Vietnam qui est devenu en 30 ans le deuxième pays producteur de café au monde.
Qu'est-ce qu'on peut manger qui serait tout à fait idéal avec du café ? Le carré de chocolat, alors, bon, il y a tout le petit biscuit qu'on trempe dans le café, d'accord,
oui.
Mais est-ce qu'il y a des choses plus originales tremper dans le café ?
Absolument, vous avez une rubrique, encore une fois, je réponds à toutes vos questions par le livre, parce qu'il y a une rubrique à la fin, comment boit-on un café dans le monde ? Vous allez voir qu'il y a des cérémonies dans tous les pays, et avec ou sans sucre, il y a aussi une autre rubrique, par exemple au Canada, on peut boire le café avec du sirop d'érable. On peut aussi le mélanger avec du jus de fruits. Mais attention, il faut mettre très peu de jus de fruits et beaucoup de café. On peut le mélanger avec du miel, par exemple. C'est beaucoup plus agréable que du sucre.
Ça change beaucoup le goût du café. Moi, je le fais, le
voilà,
miel dans le café, ça change.
Absolument, ça peut changer le goût du café. En Suisse, par exemple, ils ont l'habitude de prendre du café qu'un petit verre de kirsch. Vous voyez, chaque pays, en fait, il y a une tradition autour du café, avec des petits gâteaux, avec des spéculoos. En France, ça, c'est le plus connu. Hein. Mais en Allemagne, avec des biscuits, ou en Belgique, on peut rajouter un tout petit peu de sel dans le café, justement, pour du sucre et du sel, pour remonter le vrai goût du café.
Avant de nous séparer, une dernière petite question, peut-être saugrenue. Est-ce qu'il y a des pays où l'on déteste le café ?
Bien sûr. Vous savez que le café est la deuxième boisson européenne et la troisième boisson dans le monde. Vous avez d'abord l'eau, qui est la première boisson mondiale, et ensuite vous avez le thé. En matière de café, on boit 12 000 tasses à la seconde, c'est beaucoup. Ça fait 440 milliards de tasses par an. Mais en matière de thé, par exemple, on boit 25 000 tasses par seconde, c'est-à-dire deux fois plus que du café. Vous avez des pays comme la Chine, par exemple, où on boit peu peu de café. Vous avez les pays comme l'Inde où on boit peu de café. Les Japonais ne buvaient pas de café jusqu'à dans les années 70. Et c'est vrai que les films, par exemple, d'Alain Delon ont été projetés là-bas, etc. Ils se sont européanisés. Et maintenant, c'est un gros pays consommateur de café. C'est amusant, hein. Ça, c'est le petit détail, hein. Mais c'est vrai que dans tous les pays asiatiques, ils boivent très peu de café. C'est pour ça que le thé est la deuxième boisson mondiale. Mais en Europe, on est deuxième boisson européenne.
Le roman du café, disponible en librairie aux éditions du Rocher, c'est le titre de l'ouvrage de Pascal Marmet que vous venez d'entendre à l'instant dans Wagon Livre sur Radion. Pascal Marmet que j'avais rencontré à Autun en avril 2014. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de votre émission littéraire.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pénétrons, si vous le voulez bien, dans les mystères de l'art avec le reportage qui va suivre. En 1490, de passage à Milan pour honorer une commande de son mécène, Léonard de Vinci rencontre Salaï, un garçonnet inculte et loqueteux. C'est le coup de foudre. Le gamin est acheté pour une poignée de florins et Léonard de Vinci l'emmène chez lui et en fait sa muse. C'est peut-être là que se cache l'origine de la Joconde. Explication à notre micro par Sophie Herfort, qui retrace dans son livre Le Jocon la passion scandaleuse du maître pour le jeune garçon au cœur d'une Florence en pleine effervescence créatrice. C'est un reportage que j'avais enregistré en septembre 2011 lors de Livres en Vigne en Côte d'Or, qui se tient au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Sophie Herfort.
La Joconde, c'est quand même ce qui fait rêver énormément de curieux, d'historiens qui ont émis des hypothèses parfois farfelues. On a même été dire que la célèbre Joconde était tout simplement l'autoportrait déguisé de Léonard de Vinci. Donc on va loin dans les spéculations. Tout simplement, on y vient à cet intérêt par l'amour de l'art aussi, de l'histoire. Et lorsqu'il m'arrivait d'arpenter effectivement les galeries du Louvre, je m'attardais souvent sur ce fameux Saint-Jean-Baptiste et je lui trouvais une ressemblance excessivement frappante avec le modèle de la Joconde. Ça a commencé tout simplement par une histoire de ressemblance qui pour moi n'en était plus une à partir du moment où j'ai commencé mes recherches aux archives de Milan, aux archives historiques, et j'ai commencé aussi à enquêter du côté de Florence pour savoir qui était le célèbre Léonard de Vinci. Et c'est là où je découvre une histoire d'amour absolument ahurissante entre un jeune élève que Léonard de Vinci va d'ailleurs acheter comme une vulgaire vétille à ses parents. Donc on a l'impression qu'on avait Cosette et les Thénardier, mais je vous assure que pour le coup c'est authentique. Lors d'une balade en 1490, Léonard de Vinci qui se voit commander le célèbre cheval par Ludovic Sforza, qui deviendra d'ailleurs très vite son mécène, se perd dans les campagnes lombardes et découvre un petit Bacchus qui se balade effectivement parmi les vignes. Et là, c'est le coup de foudre. Le gamin est un va-nu-pied. Il rentre directement dans cette espèce de cassina italienne de maison un peu typique, maison agricole. Et effectivement, il achète le gamin pour quelques florins à son père qui lui cède effectivement comme un objet de marchandage. Et le gamin va très vite devenir son modèle à l'âge de 10 ans. Et comme on va le savoir, 5 ans plus tard, il devient son amant. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, Léonard de Vinci est un trentenaire épanoui dans la fleur de l'âge et tombe éperdument amoureux de ce gamin.
Et c'est le début d'une passion scandaleuse.
Scandaleuse. Et ce gamin va être appelé à devenir le Saint Jean-Baptiste. Et selon mes sources effectivement documentées, il est, de façon indéniable, le Jocon, nous pouvons peut-être l'appeler comme ça. Il est la célèbre muse du Louvre. J'ai effectivement repris tout le planning, si j'ose dire, de Léonard de Vinci à l'époque de la conception de la célèbre Joconde, à l'époque où justement, en 1504, Léonard de Vinci avait reçu une commande de la seigneurie de Florence pour le Grand Conseil, pour orner une fabuleuse fresque de guerre, donc la bataille d'Anghiari. Et c'est à cette époque précisément qu'il commence la Joconde. Or, effectivement, quand on sait qu'il n'avait qu'un seul modèle sous la main, qu'il est abrité par un mécène du nom de Martelli Braccio, on ne peut que se poser la question, quand on constate l'énorme ressemblance et quand on sait que Huigard a son planning, il y avait toutes les raisons qu'à cette époque-là, Léonard de Vinci ait choisi Salaï pour en faire son modèle.
Par conséquent, Sophie, on rappelle donc le titre de ton... C'est un travail de recherche, ce n'est pas
absolument
un roman, attention. C'est un essai, c'est une réflexion.
C'est un document historique sur l'identité de la Joconde, qui était vraiment Mona Lisa. Et d'ailleurs, à cet effet, vous allez enfin pouvoir découvrir la vie personnelle du grand maître, de Léonard de Vinci, que tout le monde imagine comme sur cette sanguine un peu vieillissante. On l'imagine à plus de 60 ans, glabre, sans histoire. Non, glabre. C'est pas glabre, parce qu'il est... Voilà, je vais finir. Parce que glabre, ça veut dire qu'il n'a pas de barbe. Donc on l'imagine lisse. On imagine un Léonard de Vinci parfaitement pur, un peu à l'image d'Aristote, mais il a eu quand même une vie sexuelle, il a eu une vie personnelle. Il a eu une aventure absolument passionnelle et passionnée avec son plus jeune élève. Il avait d'autres amants, comme Boltraffio, comme le Pérugin, qu'il a connu à l'atelier Verrocchio du temps où il était en formation pour son école dans son école de peinture. Tout simplement, lorsqu'il va... Il va effectivement mûrir, il va s'intéresser au très jeune garçon. Il va même, je pense que effectivement ce détail-là n'est pas anodin, être accusé de sodomie sur dénonciation. En attestent les mémoires du notaire de Corsinis. Il est accusé quand même d'avoir participé à une sodomie collective. Sur la personne de Jacopo Saltarelli, un jeune homme de 16 ans qui était d'ailleurs son tout premier modèle avant Salaï. Et donc il baigne dans une atmosphère sulfureuse et cet homme-là va tout faire pour se racheter une conduite au point qu'on va avoir une image de lui, effectivement, le barbu, l'homme penseur, le génie pluriel, à la fois urbaniste de talent, sculpteur, peintre, expert en balistique, même architecte. Il va révéler son grand génie en s'efforçant méthodiquement d'effacer toute trace de son passé sulfureux, sauf que j'ai retrouvé tout son passé sulfureux, effectivement, mais pas seulement sa vie intime et personnelle, ce qui fait de lui un personnage touchant. Il n'est pas une espèce de saint intouchable et génial, il est aussi un homme avant d'être un génie. Et c'est cette partie-là que je me suis efforcée de mettre en avant.
C'était Sophie Erfort à l'instant à notre micro, chercheure en sciences de l'art à la Sorbonne et qui retrace la rencontre explosive entre Léonard de Vinci et son élève Salaï, un amour fou qui donnera naissance à l'œuvre la plus énigmatique de tous les temps, une enquête fouillée sur un mythe qui fascine le monde entier. N'hésitez pas à vous procurer son ouvrage Le Jocon, qui était Mona Lisa. C'est aux éditions Michel Lafond. Nous marquons une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de Wagon Livre. Nous donnerons la parole à Raphaël Delpart pour qu'il nous explique l'histoire du drapeau tricolore. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je rappelle que si vous n'avez pas le temps de noter les titres et les références des ouvrages dont il est question aujourd'hui dans Wagon Livre, vous pouvez les retrouver aisément sur le site d'archives de votre émission littéraire via internet www.yannickpetit.fr. Place à l'histoire dans Wagon Livre avec une interview que j'avais enregistrée en avril 2012 lors de la fête du livre d'Autun avec Raphaël Delpart, auteur de La fabuleuse histoire du drapeau français, un très bel ouvrage disponible aux éditions Quai de Seine.
La réponse est, on peut pas, une réponse simple, puisque évidemment, 2000 ans d'histoire ne peuvent pas se résumer à une réponse, même à une réponse binaire. Et le drapeau s'est créé finalement au cours des 20 siècles. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que d'abord, les trois couleurs sont permanentes dans l'histoire de France. Évidemment, elles sont permanentes, mais elles ne sont pas rationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne suivent pas un chemin classique, etc. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont présentes, elles ne sont plus présentes, etc. Songez que le bleu, le blanc, le rouge étaient présents, par exemple, dans les tribus avant les Gaulois, les tribus dont on ne sait pas d'où elles venaient, mais qui se peignaient, ce qu'on appelle le drapeau sur peau, se peignaient le corps en bleu, en blanc, en rouge, et même parfois en bleu, blanc, rouge, enfin, pas forcément en bleu, blanc, rouge, mais en bleu, en blanc, rouge, enfin, peu importe l'ordre, avec des dessins d'oiseaux, des dessins d'animaux, pour se reconnaître, parce que dans cette immensité, ils avaient peur de se perdre et de ne pas retrouver leur tribu. C'est d'ailleurs pour ça que les Romains avaient le vexulum, c'est-à-dire un animal qui représentait telle unité, et lorsque le soldat dans les combats se trouvait perdu, il regardait où se trouvait le vexulum, c'est-à-dire l'image de son unité, et pouvait se repérer. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, beaucoup plus tard, qu'est né le porte-drapeau sous Louis VI, dit le Gros. Voilà. Donc l'histoire du drapeau français est une histoire fabuleuse que j'ai découverte, c'est-à-dire qu'un jour, je me trouvais sous l'Arc de Triomphe à Paris, et je recommande à tout Français et enfin tous ceux qui le veulent et qui veulent ressentir une émotion très forte de se trouver un jour sous l'Arc de Triomphe lorsque le grand drapeau est déployé. Et là, c'est une émotion immense, car cet immense symbole qui vient vers vous, qui vous caresse. Moi, j'ai eu l'impression que le drapeau me parlait et qu'il me disait raconte-moi, raconte mon histoire. Et peut-être que j'ai dû un peu trop fumer ce jour-là ou trop bu, mais en tous les cas, je me suis pris au jeu. Pendant 10 ans, j'ai recherché dans les archives, j'ai traduit des textes du latin en français, j'ai traduit des textes du vieux français en français pour être compréhensible, etc. J'ai trouvé des archives extraordinaires sur le porte-drapeau notamment, etc. La naissance des couleurs, pourquoi ces trois couleurs, et aussi la symbolique du drapeau. On s'aperçoit que l'homme vit avec le drapeau depuis la nuit des temps, car c'est le drapeau, ce signe qui a pris des formes différentes, eh bien, je viens de le dire, il a un langage, c'est un langage entre l'homme et lui, un langage curieux, un langage visible, mais qui a des codes à partir du moment où l'homme met les codes.
Et alors, moi je me souviens que mon professeur d'histoire nous expliquait que le bleu, blanc, rouge, le blanc était la couleur de la royauté, et que le blanc était prisonnier du rouge et du bleu qui étaient les couleurs de la ville de Paris.
Oui, c'est faux. Alors, le bleu a d'abord été initié par Clovis. C'est la chape de Saint-Martin, c'est-à-dire la manteau de Saint-Martin qu'il a coupé en deux, qui était à l'époque, car Saint-Martin était un Hongrois qui était engagé dans l'armée romaine, c'est-à-dire que la Rome n'avait pas d'armée, c'était des armées d'engagés en réalité. Il était Hongrois, son père était général, enfin un grade très élevé, lui était simple soldat, et il a rencontré la foi du Christ et il est devenu chrétien. Et à partir de là, entre autres choses, il y a cette fameuse histoire que tout le monde connaît, à Amiens, un soir d'hiver, il partage son manteau en deux, et c'est cette chape-là qui est devenue, cette partie de ce manteau, qui est devenue le premier drapeau, la première couleur du drapeau français, qui a été initié, alors c'est très long, je ne vais pas le raconter maintenant, qui a été initié par Clovis. C'est Clovis qui a été le chercher la chape à Noirmoutier, quand bien un siècle après, plus d'un siècle après la mort de Martin, Saint-Martin, et qui en a fait son emblème pour se protéger justement. Et ensuite, alors après, le bleu, il y a eu toute une période de notre histoire où la France baignait dans le bleu. Les vitraux, le bleu de Prusse, etc. Et d'ailleurs, l'Europe est bleue. Donc le bleu, et alors c'était très cool parce que...
C'est la couleur du manteau de la Vierge, également.
Alors, c'est le manteau de la couleur de la Vierge, exactement. Lorsque, par exemple, les graveurs, les fabricants de vitraux, sont aperçus, enfin l'Église surtout, s'est aperçue que avant les ciels étaient noirs, la terre était noire, que ça plaisait pas trop aux fidèles. Ils ont eu l'idée de faire le ciel bleu, la terre bleue, enfin de mettre du bleu partout. Et c'est ce qu'on a appelé le bleu cathédrale. Et le bleu, le manteau de la Vierge, vous avez tout à fait raison de le signaler, est bleu. Donc il y a, et en plus, quelle est la signification du bleu? Alors vous avez des gens comme Michel Pastoureau, qui sont des grands personnages, historiens de la couleur, héraldistes, etc., sur lesquels je me suis beaucoup appuyé aussi pour pouvoir expliquer certaines choses. Le blanc, vous avez cité le blanc. Alors le blanc, oui, on dit toujours c'est la royauté. D'abord, c'est Jeanne d'Arc, c'est aussi
la pureté,
bien sûr, la pureté virginale de la France. Je vous l'ai dit, c'est Jeanne d'Arc. Et puis, c'était le pavillon de la marine. Alors, le drapeau blanc, il était ou fleurdisé ou pas, parce que la fleur de lys, c'est aussi un symbole extrêmement complexe. Il y a des études, des thèses sur la fleur de lys. Et le rouge, bien, le rouge, on dit c'est la révolution. Non, c'est pas la révolution, c'est Blandine, c'est l'écharpe de Blandine trempée dans son sang, cette jeune chrétienne de 15 ans. Que Sainte Geneviève a récupéré son écharpe, et quand Clovis est devenu roi, quand il est devenu chrétien, elle lui a offert, lui roi très chrétien, etc. Et ce rouge, c'est aussi Charlemagne, c'est aussi l'emblème de Charlemagne. Donc c'est pas uniquement. Et pour revenir quand même à la Révolution française, c'est là le 27 pluvieux en deux que les trois couleurs ont été rassemblées et sont devenues le symbole de la France. Il faut rappeler aussi que le rouge a été pendant une période la couleur de la bourgeoisie et pas uniquement des révolutionnaires.
C'était l'historien Raphaël Delpart à l'instant à notre micro pour la fabuleuse histoire du drapeau français disponible en librairie aux éditions Quai de Seine, une interview enregistrée lors de la fête du livre d'Autun en avril 2012. On va marquer, si vous le voulez bien, une dernière pause musicale et on se retrouve après avec Régine Tessot, qui est comédienne mais qui est aussi écrivain. Elle signe aux éditions Erol un ouvrage richement illustré, très bel ouvrage, réjouissant et chaleureux, 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté. Bon appétit, c'est bientôt l'heure de se mettre à table. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est en tout cas l'heure de l'apéritif, mais c'est aussi bientôt l'heure du déjeuner. Et cela tombe bien, puisque dans quelques minutes, nous allons vous proposer un entretien avec Régine Tessot, qui donne une place essentielle à la gourmandise, au plaisir de la table et à la bonne chère. En effet, Régine Tessot signe avec Christiane Jean un beau livre réjouissant et chaleureux intitulé « Amour, cuisine et volupté, 140 recettes aphrodisiaques ». C'est un ouvrage qui est disponible aux éditions Erol. Moutarde au ginseng, cuisses de grenouille, huîtres, chocolat, de quoi donner au plat une touche coquine pour éveiller tous nos sens. Entrée, plat, douceur, boisson et recettes choc pour avant et après l'amour, mais aussi petits poèmes, anecdotes ou dictons fripons. Régine Tessot à notre micro.
Oui, nous avons dans un premier temps cherché à trouver des poèmes érotiques qui avaient tous un trait à la cuisine en incluant le mot vin, épices, pain. Et on en a trouvé beaucoup et c'était très intéressant et c'était très joli. Et nous avons aussi cherché beaucoup d'anecdotes sur les aphrodisiaques. Pourquoi ces aphrodisiaques? Pourquoi ça fonctionnait? Quels étaient les ingrédients qui étaient à l'intérieur qui permettaient de considérer que c'était des aphrodisiaques? Alors c'est vrai que dans un livre de cuisine un petit peu ludique et glamour, le côté médical n'est pas très intéressant, mais on peut quand même, par exemple, citer que l'ail, qui est considéré comme un aphrodisiaque, l'est parce qu'il contient de la lysine qui est un vasodilatateur. Donc ceci explique cela et c'est pour ça que nous pouvons considérer que tous ces produits sont aphrodisiaques.
Alors le poivre est également un aphrodisiaque puissant. Il avait d'ailleurs une appellation très particulière.
Alors il y a deux appellations, une première appellation qu'on pourrait dire un petit peu vulgaire qu'on appelle cricabit et une autre un petit peu plus élégante qui s'appelle plaisir de Vénus.
C'est extraordinaire de se rendre compte que finalement l'Église interdisait aux nonnes et aux prêtres de cultiver certaines plantes réputées aphrodisiaques. C'est le cas notamment de deux dont vous m'avez parlé. Donc d'abord, il y a la roquette et également la sarriette, me semble-t-il.
Tout à fait. Donc l'Église interdisait totalement aux moines de cultiver et aux nonnes de cultiver la roquette. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la roquette. C'est une salade absolument délicieuse qui a effectivement un petit goût poivré. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils considéraient que c'était un aphrodisiaque puissant? Et c'était totalement interdit aux moines.
Alors, on dit on peut avoir affaire à une belle en cuisse, mais une belle en cuisse de grenouille. Parce que la cuisse de grenouille est aphrodisiaque. Alors là, j'apprends quelque chose.
La cuisse de grenouille est aphrodisiaque, non pas parce qu'elle est grenouille, mais parce qu'elle mange de la mouche cantaride. Et la mouche cantaride est un puissant aphrodisiaque qu'ont utilisé notamment c'est Monsieur Casanova et le marquis de Sade dans leur partie fine, à tel point qu'un jour ils ont eu des soucis parce que en mettant dans du chocolat, ils ont eu des malaises et peut-être même, je crois, des morts, ce qui leur a valu à l'un la Bastille et à l'autre les prisons de plomb.
Les plombs de Venise.
Les plombs de Venise, voilà.
Alors, la mer offre aussi des nourritures aphrodisiaques, c'est le cas, les huîtres. Sont reconnus comme particulièrement aphrodisiaques. Et là, sur les huîtres, une petite anecdote à nous confier.
Oh, une petite histoire drôle. C'est une dame qui se plaint de l'indifférence de son mari, qui demande à son amie ce qu'elle pourrait faire. Elle lui dit, mais fais-lui manger des huîtres, c'est terriblement aphrodisiaque. Et quelques jours après, elle vient aux nouvelles. Elle lui dit, écoute, je sais pas, parce que je lui en ai fait manger une douzaine, mais il y en a que 9 qui ont marché. L'huître s'appelle aussi oreille de Vénus, en termes aphrodisiaques.
Il y a reproduit dans votre ouvrage des poèmes. Alors, vous avez puisé dans tous les siècles, hein, que ce soit le 16e avec ce qu'on appelle la Belle Cordière, Louise Labbé, ou des gens qui, comme François de Malherbe, sont connus plutôt dans le registre, effectivement, de l'éloge funéraire et qui, parfois, se laissent aller à des écrits libertins, coquins ou légèrement débauchés.
Oui. Alors, je peux vous en lire un. Donc François de Malherbe, qui est plutôt connu pour ses adresses aux princesses mortes, s'est un jour commis à écrire un sonnet qui dit ceci. « Là, là, pour le dessert, troussez-moi cette côte. Vite, chemise et tout, qu'il n'y demeure rien qui me puisse empêcher de reconnaître bien du plus haut du nombril jusqu'au bas de la motte.
Eh bien, dites donc.
Voilà, 1555, 1628.
Je n'aurais jamais soupçonné cela sous la plume de François de Malherbe. Page 11, je vais peut-être vous demander de nous le lire. Il y a le baiser de Paul Éluard, qui est aussi un texte puissant et révélateur, comme un aphrodisiaque d'ailleurs.
Oui, très beau. Très beau poème de Paul Éluard. Toute tiède encore du linge annulé, tu fermes les yeux et tu bouges, comme bouge un chant qui naît vaguement, mais de partout. Odorante et savoureuse, tu dépasses sans te perdre les frontières de ton corps. Tu as enjambé le temps. Te voici, femme nouvelle, révélée à l'infini. C'est beau, hein, c'est magnifique.
Merci Régine. Alors, les vertus du céleri, connues déjà au XVIIIe siècle, la marquise de Pompadour l'utilisait en gratin pour garder le roi soleil auprès d'elle.
Pour faire craquer le roi. Et au Moyen-Âge, on disait, si on connaissait les vertus du céleri, on en remplirait son coutil. Et même, certains disaient que si on connaissait les vertus du céleri, on courrait de Paris à Rome pour en trouver.
Je suis très surpris d'apprendre, en feuilletant votre ouvrage, Régine, que la moutarde a des vertus aphrodisiaques.
Oui, la moutarde a des vertus aphrodisiaques. Au Moyen-Âge, on appelait ça mou ardent, M-O-U, accent circonflexe T. Et George Sand, qui en était grande consommatrice, disait, je rentre pas dans les détails que je ne connais pas, s'amuser à la moutarde.
Alors, il y a des femmes qui sont des dévoreuses d'hommes. Je pense à Catherine de Russie, qui notamment ingurgitait d'importantes quantités de caviar.
Oui, elle consommait du caviar et elle demandait à ce qu'on lui livre à la fois le caviar en même temps que son plus bel officier d'apparat. Elle en consommait, tous les jours.
Régine Tessot, l'artichaut. Alors, vous parlez des cris de Paris. J'aimerais que vous rappeliez un peu ce qu'on appelle les cris de Paris et que vous nous parliez de l'artichaut. C'est page 36 d'ailleurs, mais vous le connaissez peut-être par cœur.
Alors, c'était dans les petites charrettes qui passaient dans Paris avec des légumes et tout. Et il y avait les gens qui criaient à une époque. Il y avait les aiguiseurs, je ne sais pas comment on disait, de couteaux et ceux qui vendaient des vitres. Et puis, il y avait les gens qui vendaient des petits légumes et qui criaient artichaut, artichaut, c'est pour monsieur, c'est pour madame, c'est pour tenir le cul au chaud.
Alors Pierre-Louis, que l'on connaît pour la chanson de Bilitis, a aussi écrit quelque chose d'absolument formidable sur l'asperge qui a des réputations. Enfin, évidemment, elle a une forme très phallique, l'asperge, c'est évident.
L'asperge, forcément. Oui, effectivement. Mais
c'est page 34, donc,
page
dans
34.
Votre
donc,
ouvrage,
Pierre-Louis
Régine
écrivait. Ne faites pas aller et venir une asperge dans votre bouche en regardant languissamment le jeune homme que vous voulez séduire.
Et vous aussi, avec votre camarade d'écriture, vous avez inventé deux maximes, deux proverbes.
Oui, nous avons inventé deux proverbes. Donc le premier, c'est « Mieux vaut une grosse gourmande qu'une maigre picoreuse » et « Chipote à table, chipote au lit ».
Alors les boissons sont aussi réputées aphrodisiaques. Alors, peut-être que la plus efficace, c'est la coupe de champagne à la liqueur de rose.
Oui, c'est absolument délicieux. Et c'est vrai que c'est un explosif, c'est un mélange. On dit que certains produits dégagent des endorphines. Là, ça doit produire je ne sais quel produit qui fait que c'est extrêmement, extrêmement aphrodisiaque. Et totalement délicieux en plus.
Alors peut-être moins délicieux, mais tout aussi efficace pour un homme qui connaîtrait une grosse fatigue, notamment sexuelle, c'est le jaune d'œuf dans un verre de bière brune. Tout de même, il faut avoir le cœur bien accroché.
Oui, alors là, il faut être vraiment très fatigué.
Hein. Oui.
Bon, mais il y a des choses peut-être plus sympathiques. Mais alors, on dit que, par exemple, on dit que le champagne a trois vertus. Le champagne est aussi un excellent somnifère. Et on dit un verre de champagne dans les bras de Morphée, deux verres dans les bras de ton amoureux.
À l'instant, Régine Tessot, que j'avais rencontrée lors du Salon du Livre du Lions Club qui se tenait dans Lyon, au château d'Ancile-France, c'était en juin de l'an dernier. Régine Tessot, qui signe aux éditions Erol 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté. Avant de nous séparer, je voudrais mentionner la sortie en kiosque et en maison de la presse du dernier numéro de Pays de Bourgogne, qui d'ailleurs propose un très intéressant dossier intitulé « Le fantastique bourguignon de Jacques Cazotte à aujourd'hui ». Jacques Cazotte, c'est cet auteur du roman « Le diable amoureux ». Jacques Cazotte, né à Dijon en 1719 et mort sur l'échafaud en 1792, et Pays de Bourgogne revient de manière très originale d'ailleurs sur ce fantastique bourguignon. Et d'ailleurs, le magazine Pays de Bourgogne a donné aussi la parole à des auteurs d'aujourd'hui, des bourguignons, qui vous feront découvrir quelques textes fantastiques des quatre départements de la Bourgogne, à mentionner notamment le village de Chéhu, pas très loin de Saint-Florentin dans l'Yonne, le village de Chéhu, qui d'ailleurs a connu pendant de nombreuses années, entre le 6e et le 19e siècle, l'existence de phénomènes étranges, des animaux devenus fous, des vieilles femmes qui se mettaient à danser, des jeunes filles hystériques chevauchant leur balai en pleine nuit. En tout cas, il nous est dit que le village de Chéhu a été ravagé par un incendie en 1829 et qu'à partir de là, le village est totalement purifié. Et d'ailleurs, il est rappelé que tous les derniers week-ends de septembre, depuis 2009, la commune de Chéhu organise la fête des sorcières le jour de la foire d'automne. Voilà, Pays de Bourgogne, le fantastique bourguignon de Jacques Cazotte à aujourd'hui en kiosque, revue trimestrielle que nous apprécions beaucoup. Et je voudrais remercier Christian Colombet qui nous fait toujours gracieusement parvenir sa revue, de manière à ce que nous puissions en parler et la défendre dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Samedi prochain, samedi 6 avril à 11h, nous nous retrouvons bien sûr sur la fréquence de Radion ou sur le www.radion.fr. Nous recevrons Philippe Berthe-Langereau pour son dernier essai paru aux éditions Sutton, essai qui a pour titre « Les loups dans le Morvan ». On aura l'occasion de parler de cette bête admirable qui fait peur mais qui est également fascinante. Sachez d'ailleurs que le dernier loup tué dans l'Yonne le fut lors d'une battue le 6 janvier 1887, non loin de Châtel-Gérard. Ce loup pesait 35 kilos et il se trouve naturalisé au Muséum d'Auxerre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous rappelle que les titres et les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui se retrouvent sur le site d'archives de l'émission, le www.yannickpetit.fr. Au revoir à toutes et à tous, très bonne journée. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre, toujours sur Radion.